pour 15 albums que je télécharge, j'en aurais peut-être acheté un maximum en CD. Donc, je pense que le manque à gagner n'est pas énorme. J'ai pas l'impression de voler en téléchargeant du MP3.
Derrière le masque, le pirate. Ennemi public numéro 1 de l'industrie du disque, il est accusé d'être responsable de la chute vertigineuse du marché de la musique. Équipé seulement d'un ordinateur et d'une connexion Internet à haut débit, il ferait trembler une économie toute puissante. Mais le piratage est-il vraiment l'assassin de la musique comme le laissent entendre les professionnels du disque? Pas si sûr. Pour mieux comprendre la révolution musicale en cours, il faut remonter le temps et rechercher dans l'histoire les racines du mal. Notre histoire commence à la fin des années 50. À cette époque, la musique, c'est de l'artisanat, tout juste un support publicitaire. On ne part ni d'industrie, encore moins de stratégie marketing.
Je suis avec Brassens la première étiquette des disques Philips. C'était des disques qui étaient apparemment destinés à faire la publicité des ampoules électriques et des objets ménagers de la maison Philips, qui est une maison, comme nous l'en ignorons, hollandaise. Tous les hommes oppressés. Le disque était purement artistique et l'argent venait du budget publicitaire de cette maison Philips gigantesque à cette époque-là.
Le Gotang Project mélange le bandoneon et les ordinateurs. Ce tango électronique devient un succès international sans aucun marketing. À l'origine de cette réussite, trois musiciens authentiques qui ont parcouru longtemps les arcanes du music business.
Eduardo Makarov, enchanté.
Monsieur Rock en Argentine dans les 70s.
C'est moi, Christophe Muller.
DJ compositeur de musique électronique.
Philippe Cohen-Solal. Paris.
Ex-directeur artistique et compositeur.
Sans remonter aux années 60, mais en y remontant quand même un petit peu, quand même, parce que les directeurs artistiques de l'époque qui ont marqué la chanson française et qui ont marqué, pas sur la chanson internationale d'ailleurs, c'était des gens qui étaient avant tout des musiciens, quand on pense à Eddie Barclay ou à Quincy Jones. C'est des gens qui connaissaient bien la musique, qui la jouaient, qui l'aimaient, et qui ont donné après des moyens à d'autres artistes. Et pas seulement des moyens, ils ont donné le temps aux artistes de se développer, développer leur travail et des conseils.
Nous étions tous très jeunes, très fous et très passionnés et ignorant complètement ce que pouvait être l'argent.
Et puis, après, dans les années 70, il y a une génération de directeurs artistiques qui n'étaient pas obligatoirement des musiciens, mais qui étaient des gens qui adoraient la musique, qui étaient des gros fans de musique. Ça pouvait être des anciens journalistes ou des fans de musique qui organisaient des concerts et qui sont devenus les gens qui ont façonné un peu les maisons de disques à cette époque-là.
Surnommé le French Wonderboy de la disco, Henri Bellolo est un producteur comblé à l'origine de tubes planétaires interprétés par la Ritchie Family, Patrick Juvet et autres Village People. Patron du label Scorpio Music, en 40 ans de métier, il a tout vu, tout connu.
Qu'est-ce qui définit un bon producteur de disques?
La caricature qui en a été faite, c'est-à-dire c'est le mec avec un gros cigare qui est le vampire, qui pompe le sang des artistes, c'est un peu une caricature. D'être un bon producteur, c'est quelqu'un qui est capable de permettre et d'aider un artiste et de permettre à l'artiste de déployer ses ailes, de s'épanouir et de se réaliser. En dehors de la relation humaine avec l'artiste, qui est fondamentale, l'artiste et tous les autres créatifs de la chaîne, musicien, ingénieur du son, c'est ce qu'on appelle sa feuille. Il faut qu'il ait de l'oreille. C'est bizarre. Oreille et nez. Feuille, flair et expérience. Et puis une petite dose de talent. Et puis par-dessus tout, la chance.
Nous, on n'avait aucun sens du nombre de disques vendus. C'était pas du tout une chose qui nous importait, mais pas du tout, pas du tout. On faisait des tournées pourries, on était payés comme des, vraiment comme des esclaves, mais on faisait le métier qu'on aimait.
Vous pouvez nous raconter rapidement comment vous avez monté Village People, par exemple ?
Bien, Village People, on vivait à New York avec Jacques Morali. On avait déjà fait un groupe de trois filles black américaines, les Ritchie Family, qui avait été numéro un dans le monde entier avec un nouveau style qu'on a appelé la disco, 1975. Hein. Et donc on cherchait une idée avec Morali, on se promenait dans les rues de New York, on a entendu le ding-dong d'une cloche, on s'est retourné, un Indien marchait dans les rues de New York. Histoire vraie, hein. L'Indien, c'est Felipe Rosé de Village People. On l'a suivi, il travaillait dans un bar. On s'est assis prendre un pot au bar et à un moment, un cow-boy avec son chapeau Stetson sur la tête consommait au bar, comme ça, en regardant l'Indien qui dansait toutes les 15 minutes pour animer le bar. Pourquoi on ne ferait pas un groupe de mâles américains avec les stéréotypes du mâle américain tel que nous on le conçoit, on a tous vu des films de cow-boys et d'Indiens, et on a commencé à délirer là-dessus. Et comme ça se passait au village, qui est un peu le Saint-Germain-des-Prés américain, on a dit pourquoi on ne les appellerait pas les gens du village, qui en anglais devient les village people.
C'est comme ça que Village People, production française, est devenu un gros succès aussi aux États-Unis.
Ah, c'est devenu un succès énorme aux États-Unis, puisque chiffre réel, je crois qu'on a vendu, et les albums de platine et de d'or qui sont là en sont la preuve, je crois qu'on a vendu plus de 15 millions d'albums aux États-Unis, plus de 30 autour du monde, et plus de 100 millions de simples autour du monde.
Le support s'essouffle plus vite que les artistes. Après 30 ans de bons et loyaux services, le vinyle, mis au point en 1948 par Columbia, tourne de moins en moins rond. Philips invente le compact disc, imposant du même coup un nouveau standard, 74 minutes de son numérique sur un nouvel objet indestructible.
Pas un micro-sillon, un disque inusable de 12 cm. Par le frottement d'un diamant, le son pur, inaltérable du rayon laser.
Eh bien, la création du CD, c'est une histoire intéressante.
Alliance technologique entre Philips et le japonais Sony, la naissance du CD annonce une nouvelle ère de la diffusion de la musique, celle de la diffusion de masse.
Il y a une équipe qui, depuis les années 70, travaillait sur deux choses, qui étaient, un, comment encoder la musique en utilisant un système binaire de 0 et de 1, et deuxième chose, une deuxième technique, c'est une autre équipe, qui était comment lire des informations avec un rayon laser.
Voici le lecteur compact disque Philips.
Le lancement du premier CD et le moment où c'est devenu le standard incontournable qui a remplacé le vinyle, il s'est passé combien de temps ?
On l'a lancé en 83 et je dirais que il était évident que ça allait marcher à partir de 85. Ce qui pouvait bloquer, c'était de dire les gens ont une énorme discothèque, pourquoi voulez-vous qu'ils changent même pour avoir un meilleur son ?
Une invention que vous pouvez connecter facilement sur votre chaîne Hi-Fi. Son laser.
Les avantages étaient tellement évidents et spectaculaires qu'à partir du moment où vous aviez goûté au fait d'aller d'une plage à l'autre directement sans faire comme ça avec un saphir, au fait que votre truc était inusable et que vous pouviez le stocker sans faire trop attention, qui ne s'usait jamais, au fait qu'il prenait très peu de place, et surtout au fait d'une qualité de son qui n'avait jamais été entendue avant, ça faisait beaucoup d'avantages qui suffisaient quand même à faire basculer les gens. On savait faire les machines, on savait faire le support, mais il fallait encore avoir le contenu. Je dirais que le groupe emblématique du CD, un peu comme on va dire que Pink Floyd, Dark Side of the Moon, a déclenché l'équipement stéréo. On va dire que Dire Straits a été le groupe emblématique, c'est-à-dire un son un peu travaillé avec des guitares cristallines, des choses qui s'entendent bien qu'au CD. Quand 85, donc c'est clair que le CD s'impose. Et à partir de 85, on voit progressivement une chute des ventes de disques, une explosion des ventes de CD. La meilleure, je dirais, façon de s'en rendre compte à l'époque, c'était d'aller dans une grande, dans un magasin qui vend des disques, c'était la Fnac par exemple, où chaque semaine le CD gagnait un rayon, un rayon, un rayon, et le vinyle en perdait un autre.
Le compact disque s'impose auprès du grand public, mais pour l'artiste, le changement n'a rien de révolutionnaire. Loïc Durie, ex-DJ de Radio Nova et compositeur de musique de film, a vécu cette mutation et la boulimie exponentielle des maisons de disques.
Le CD, tout d'un coup, l'industrie a vraiment pris les artistes pour des cons, parce qu'elle a dit, ah ben voilà, on va doubler le prix de l'objet, puisque avant on vendait un vinyle à un certain prix, quand le CD est sorti, on l'a vendu deux fois plus cher. Deux fois plus cher, mais le bénéfice réalisé est allé dans la poche des maisons de disques, pas des artistes. Ils ont refusé de changer la part allouée aux artistes. Donc ils l'ont vendu deux fois plus cher, mais c'était un hold-up, puisque le CD coûte moins cher à fabriquer que le vinyle. Donc le prétexte était que c'était une nouvelle technologie. Regardez cet objet inusable, incassable, inrayable, on va vous le vendre deux fois plus cher, donc gagner deux fois plus, et tout le monde se tait. Là, ça a commencé à se vérouler. Là, tout d'un coup, il y a un truc à craquer quelque part, où tu te dis, attends, ils ont totalement pété les plombs, et il n'y a plus aucune connexion avec la réalité.
Les profits dégagés par les ventes de CD sont impressionnants. Les grosses maisons de disques que l'on commence à appeler les majeures compagnies deviennent les poids lourds de la production musicale. Une logique naturelle selon Pascal Nègre, président d'Universal Music.
Il y a toujours eu des labels indépendants. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Et il y a toujours eu des majors. Et c'est très bien aussi.
Mais après tout, les majors, ce ne sont pas des sociétés qui ont une génération spontanée. On ne naît pas major company, on le devient par acquisition successive de catalogues.
Je suis patron d'Universal. Avant j'étais patron de Polygram, qui a été racheté par Universal. Et que Polygram, ça appartenait à Philips.
C'est une maison comme les Landignard hollandaise.
Avec les bouleversements qu'il y a eu dans l'industrie, la raréfaction du chiffre d'affaires et des profits générés, ont amené des indépendants à devoir sacrifier leur indépendance en vendant leur boîte aux majors.
Et c'est très bien.
Eddie Barclay, qui a été une des grandes marques indépendantes, a été obligé de vendre à un moment à Polygram.
Polygram, ça appartenait à Philips.
C'est une maison comme les Landignard hollandaise.
Qui est devenue Universal.
Et c'est très bien aussi.
Vogue, Léon Cabat. C'est quand même Dutron, c'est quand même... Oui, Jacques Dutron et plein d'autres. Johnny Hallyday, à ses débuts, a vendu sa boîte il y a à peu près 15-18 ans. Claude Carrère, Sheila, etc., a vendu sa boîte à Warner.
Voilà.
En 1992, la multinationale EMI Capital rachète Virgin Records. Universal, Warner, BMG... Sony et EMI vont rapidement détenir à elles seules 80% d'un marché estimé à 40 milliards de dollars. Quatre de ces majors dépendent de groupes de communication mondiaux.
Il a commencé à arriver à la tête des maisons de disques des gens qui venaient pas du tout du disque, qui aimaient accessoirement la musique, mais qui n'étaient pas du tout des gens qui étaient là pour ça. Et qui venaient de la pub, de l'industrie, être des lessives, hein, ça pouvait vraiment être ça, hein, c'est pas une caricature, ça pouvait vraiment venir de ça, et qui se sont dit, maintenant nous on va faire du business, là, maintenant on va faire vraiment, on va vendre des disques, on va vous montrer ce que c'est de vendre des disques.
Egon Kragel a été pendant 10 ans directeur artistique de label indépendant Last Call. Artiste et musicien au début des années 80, sa passion et son écoute lui ont donné de beaux succès, comme la compilation Elche Vive.
Le directeur artistique a été remplacé progressivement par le chef de produit. Et ça, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire qu'on passe de l'expression artistique au produit de masse. Les acteurs de l'industrie phonographique ont quand même sacrifié l'essence de ce qu'ils sont. La disparition des petits disquaires. est un cas flagrant. On a réduit de façon terrible la palette. Le petit disquaire, c'était quoi? C'était justement rien d'autre qu'un passionné. Moi, j'ai vécu en province. On avait le magasin spécialisé en jazz, le magasin spécialisé en musique classique, etc. On pouvait aller de l'un à l'autre. On apprenait des tas de choses, on découvrait. La suppression de ça fait que le flot de musique devient de plus en plus aseptisé, devient uniforme, et le public se lasse.
Quand j'étais directeur commercial chez Polydor, j'avais environ 8200 disquaires clients. Aujourd'hui, un directeur commercial, je parle des disquaires, quand il en a 300, c'est le bout du monde. Le reste, ce sont des grandes chaînes de distribution, ce qui fait qu'en statistique, grosso modo, quand 100 disques se vendent, 80 se vendent dans la grande distribution et 20 se vendent dans la distribution moyenne ou le disquaire. Donc disparition des disquaires.
Au début des années 90, les ventes de CD explosent grâce à la multiplication des canaux de distribution. C'est la naissance de grandes surfaces spécialisées et de rayons de compact dans les hypermarchés. Pour accompagner cette explosion, de nouveaux acteurs font leur apparition. Musicien et publicitaire, Eric Tong Kuang prend en 2003 la direction d'EMI France.
Peut-être qu'il y a eu trop de puissance orientée vers ces canaux-là à un moment donné pour essayer de pousser des produits qui étaient ultra trop marketés. Enfin, là aussi, l'offre, elle a tellement bougé et l'accessibilité à tous ces produits a été tellement démultipliée que c'est plutôt très favorable à la musique.
Banam, Banam. Hey, je te jure, mais c'est pas sûr. La vie de ma mère, on est à Banam.
À l'époque, dans les années 80, au milieu des années 80, grosso modo, on vendait un disque français pour un disque étranger. Aujourd'hui, on est à 65-67% de ventes d'artistes français. Et c'est vrai que si on regarde depuis 10 ans, 12 ans, c'est incroyable le nombre de courants musicaux français qui ont explosé.
Rap, ragamuffin, raï, techno, house, trip-hop, R&B, world, les majors accompagnent malgré tout l'émergence d'artistes atypiques. Les Toulousains de Zebda sont une des consciences du rock français. Disque de platine en 99, leur popularité est immense grâce à un engagement civique fort et au travail de leur maison de disques. Comme quoi les majors peuvent également se rendre utiles.
Comment se sont passées, du début jusqu'à maintenant, les relations que vous avez eues avec les labels en général et avec l'industrie du disque ?
Au départ, évidemment, c'était le néant. Donc, puisqu'on commençait à jouer dans les bars et faire un parcours d'apprentissage, disons, initiatique par rapport à notre histoire de groupe, notre apprentissage. Et puis, à un moment donné, on a commencé à avoir quelques morceaux et qu'on a pu enregistrer. Donc, on a commencé naturellement, à cette époque-là, c'est-à-dire en 90, à solliciter plutôt les labels alternatifs.
Alors, je crois que ça va pas être possible par les escaliers. Alors là, vous dégagez par là-bas. Non, moi j'en ai rien à foutre. Allez, hop.
Et puis, donc ils ont pas répondu à notre démarche. Et puis un jour, on a rencontré un producteur qui s'appelle Peter Murray, qui nous a vus sur scène, qui nous a proposé un contrat avec. Un label qu'il allait remonter, qui s'appelait Nord-Sud, qui était donc un label de Barclay, donc qui était lui-même un label de Polygram, en plein dans la major. On était très loin d'avoir les moyens d'aller en studio plus de 15 jours, et puis là, on nous proposait quand même un travail concret de studio pendant à peu près, je crois qu'on a eu à cette époque-là, 45 jours de studio pour le premier album, ce qui était vraiment énorme. L'apport artistique de la maison de disques, il n'y en a pas. Par contre, il y a la question des moyens. Concrètement, c'est le temps de travail, c'est la possibilité de travailler dans un studio, dans de bonnes conditions, avec des bons ingénieurs, avec du bon matériel, et avoir le temps de chercher, de chiader une histoire.
Les chansons commencent, et qu'on boive et qu'on danse.
L'artiste est devenu un produit, il a un prix, il est vendu en grande distribution. Des experts façonnent son image, le marketing devient l'arme absolue. Les clips et la pub sont les nouveaux habits du succès commercial.
C'est bien.
Les chansons nous rassemblent qui sont un peu tard.
Mais juste être ensemble. Les chances, tu prends tout de suite, ok? On refait tout de suite ça. Mais c'est bien, tu donnes bien, là, pour une fois.
Quel est le message que tu veux donner sur cet album par rapport à Dans ma chair? Dans ma chair, pour moi, c'est clair. C'était sophistiqué, mode, complètement branché par rapport à l'image d'avant qui était Marlène classique. Donc maintenant, quel est le message que tu veux donner?
Mode, mais être un peu plus proche des gens.
Et bien justement, si toi tu l'es dans un contexte comme ça, t'es contente et en même temps t'es proche des gens et ça t'empêche pas d'être toi.
On cherche simplement à le faire entrer dans une case qui paraît la plus pratique et la plus décisive pour vendre à un plus grand nombre de gens. C'est ce que, on déplace l'artiste pour le faire entrer dans un produit de consommation.
Oui, il va être en beau, ça, oui.
Après avoir connu les tourments du pouvoir des multinationales, Philippe Cohen-Solal crée le label Yabasta, ça suffit, en 1997. Lassé du manque de vision des majors, il fait le choix de l'indépendance. Un énorme travail au quotidien, parfois éloigné des recharges artistiques, mais aussi une liberté inégalée.
Quand vous avez décidé de commencer Yabasta, en fait, c'était suite à une expérience de directeur artistique dans une major. Ouais. C'était une expérience décevante. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qu'il y avait? Quel était le problème?
Je dirais décevante et traumatisante pour moi. En fait, c'était 3 ans extrêmement difficiles. Décevant parce que je savais pas d'abord ce que c'était exactement directeur artistique. Je pensais que c'était avant tout découvrir des artistes et... Et après, la maison de disque allait donner les moyens à cet artiste qui était signé à se développer. Moi, les trucs que je voulais signer dans cette majeure, c'était des choses qui étaient très atypiques. À l'époque, c'était par exemple les Négresses Vertes ou d'autres. Et c'était tellement atypique que tout de suite, tout le monde disait ça marchera pas, quoi. Ça, c'est pas possible. Il n'y a pas d'exemple. Tout le monde se base sur l'exemple d'avant. Il y a ça qui a marché. Donc, c'est ça qui va marcher encore. Il y avait tout de suite le top 50, il fallait tout de suite regarder. Et là, c'était tout de suite, il est remonté de 3 places, il est descendu de 4. Bon, il est sorti du top, bon, on le laisse tomber, allez, on passe à autre chose. C'était un peu déjà du court terme, on partait déjà sur le principe du court terme et on ne donnait pas du tout aux artistes le temps d'exister sur un premier album, un deuxième album. Il y avait une sorte d'obligation de résultat quasi immédiate. Je m'étais fait virer, donc je me suis retrouvé au chômage pendant quelques mois. Et j'ai dans la rue, j'ai découvert un artiste. J'ai entendu chanter devant une terrasse de café au Hall. Et cet artiste, c'est Kezia Jones. Et j'ai fait faire des maquettes très simples, guitare voix, que je suis allé présenter à toutes les maisons de disques. Et je me suis fait jeter de partout. J'étais de l'autre côté du bureau. Avant, j'étais directeur artistique. Là, je suis passé de l'autre côté. Où je suis allé présenter justement les maquettes d'un type que je pensais avoir énormément de talent. Et là, je me suis fait vraiment jeter, poliment toujours, mais vraiment, de façon assez incroyable, quoi. C'est un côté très pop en même temps, tu vois. Soit on essaie de le tangoiser un peu plus, c'est-à-dire, tu vois, il peut y avoir des...
Zoom. Zoom.
Ou même en plus rapide.
Zoom. Zoom.
Non, des trucs d'archer, tu vois, des coups d'archer. peut-être un peu de chant au milieu, ou des voix parlées, je sais pas trop.
Moi, je suis pour tangoiser la chose. Hein.
Alors tu vois, est-ce que ça peut pas être justement avec le violon, un violon ça qui est joué et avec un ses contrebasses en fait, ses contrebasses à l'archer.
Jouer à l'archer, ça peut marcher. Ouais.
Ça risque de donner le truc un peu plus triste que ça l'est, mais c'est pas très gênant parce que le morceau il est suffisamment tu vois enlevé, hein, c'est joyeux déjà, c'est pas très gênant si on le si on est un peu plus mélancolique, tu vois, c'est pas mal. Hein. La plus grande fierté que t'as quand tu fais ton label, c'est que tu maîtrises tout de A jusqu'à Z quasiment. Gotan Project, si on lui avait donné, je sais pas, 6 mois pour vivre, il n'aurait pas vécu en 6 mois. Ce serait tout de suite. Ou si on l'avait tout de suite, on était sorti du studio, on l'aurait amené dans une major pour le signer, il se serait rien passé, parce qu'il n'y avait pas de single, il y avait pas de, ça ressemblait à rien. C'était, ça aurait eu un petit succès, sûrement un succès underground, un succès d'estime, quoi.
L'industrie souffre du syndrome des 5 M, ce que j'appelle les 5 maudits. Alors, qui sont les 5 M? L'industrie est tenue par 5 grandes majors qui, grosso modo, dans le monde, font 80% de parts de marché. Donc, elles ont le pouvoir. Le problème, c'est que ces majors se sont lancées il y a quelques années. Je pense que ça doit remonter à 7-8 ans dans le tout marketing et la part de marché. Au lieu de se concerter au niveau des grands enjeux, se sont jetés dans une bataille fratricide, complètement suicidaire, course à la part de marché, course d'ailleurs aussi à un moment au débauchage d'artistes, qui font que les institutions dans lesquelles elles étaient censées se parler, qui en France sont le SNEP, sont les syndicats, ne fonctionnaient plus à plein. Les problèmes généraux, philosophiques de notre métier n'étaient plus traités au profit des problèmes basiques, comment conquérir de la part de marché, comment glisser la peau de banane sous le pied de son concurrent. Alors vous doutez bien que lorsque les dirigeants ont toutes leurs facultés intellectuelles mobilisées là-dessus, la volonté de se projeter en avant et de regarder plus largement qu'est-ce qui peut se passer dans les années à venir, elle est plutôt restreinte.
Aveuglée par le profit, l'industrie du disque ne voit pas venir la révolution en cours. Avec l'arrivée d'Internet à la fin des années 90 et l'avènement de l'informatique, l'ordinateur est voué à remplacer la chaîne Hi-Fi. C'est la naissance d'une nouvelle race de mélomanes, l'internaute.
Vous, quel est votre point de vue en tant qu'artiste là-dessus? Est-ce que vous vous sentez concerné?
Je sens un grand danger. Internet est un grand danger. C'est en même temps absolument magnifique. Hein. Bon, il ne faut pas non plus se voiler la face. Internet, c'est une chose extraordinaire, fabuleuse. Et en même temps, c'est un très grand danger pour la survie des auteurs et des compositeurs. C'est très, très dangereux. Et pour la survie des maisons de disques. C'est extrêmement dangereux.
En 1999, les internautes découvrent Napster, le premier logiciel de partage de fichiers musicaux. C'est un étudiant américain, Sean Fanning, qui ouvre la voie. Il vient d'inventer une nouvelle technologie qui va révolutionner la diffusion de la musique. En accès libre et gratuit sur Internet, son logiciel se propage à la vitesse du son.
Napster est né du coup de génie d'un gamin de 17 ans qui a littéralement réinventé toute l'industrie de la musique en mettant au point une technologie permettant d'avoir instantanément accès à n'importe quel morceau, de le faire partager à des amis et de découvrir ainsi de nouveaux artistes.
À partir de quel moment un nombre vraiment croissant de gens ont commencé à télécharger de la musique comme ça?
C'est Napster, hein, je crois, qui est à l'origine de tout. Hein.
À son apogée, Napster comptera 70 millions d'usagers mettant en commun sur un serveur central leur discothèque personnelle. Résultat, la création d'un jukebox mondial où chacun peut puiser son bonheur en toute illégalité puisque les titres en circulation sur Napster sont protégés par le droit d'auteur et que les artistes ne sont pas rémunérés.
La musique, c'est une question de taille de fichier qui fait qu'on est passé avant le cinéma, hein, sur le bio.
À l'origine de cette situation, le format de compression MP3 qui permet de transformer la musique en petits fichiers informatiques adaptés à l'Internet. Le MP3 est né des travaux de recherche menés en Allemagne par une petite équipe au milieu des années 80. Le responsable de cette révolution technologique, c'est lui, le professeur Karl-Heinz Brandenburg.
Comment est né le format MP3? Quand et pourquoi a-t-il été créé?
C'est une longue histoire, qui remonte en fait à la fin des années 70, début des années 80. Mon directeur de thèse de l'époque, le professeur Seitzer, était persuadé qu'il devait être possible de transmettre de la musique par les lignes téléphoniques. Mais l'Office des brevets estimait que c'était absolument impossible. Seitzer a alors demandé à l'un de ses étudiants de démontrer le contraire. Cet étudiant, c'était moi. Le procédé fut baptisé Layer 3, troisième couche, puis bien plus tard MP3.
En 1997, le professeur Brandenburg rencontre à Washington les professionnels du disque pour leur présenter son invention. Les majors, encore en bonne santé à cette époque, n'y voient aucun intérêt.
Le MP3 repose sur ce qu'on appelle le codage perceptuel, c'est-à-dire qu'il permet de compresser les données sans dénaturer le son. On ne modifie pas la musique. Simplement, on élimine les données qui ne sont pas indispensables à la reproduction du son en tant que tel. Quand on considère ce qui reste, c'est surprenant. Moi-même, je suis étonné de la qualité du résultat.
Cool et Napster devient la priorité des maisons de disques. Après 2 ans de procédures judiciaires aux États-Unis pour infraction à la législation sur le droit d'auteur, le puissant syndicat américain des éditeurs de musique obtient la condamnation et la fermeture de Napster en 2001.
Toi, tu utilisais Napster ?
Ouais, je l'ai beaucoup utilisé au début et puis ça s'est arrêté. Tout passait par un serveur central et du coup, les gens téléchargeaient depuis ce serveur. Et du coup, ils étaient forcément dans l'illégalité étant donné qu'ils stockaient sur leur propre serveur des fichiers pour lesquels ils n'avaient pas payé de droits en fait et qu'ils les diffusaient.
Le pire reste à venir. Tandis que l'industrie s'acharne sur Napster, ses enfants grandissent dans l'ombre. C'est la naissance du peer-to-peer, un système qui relie entre eux les ordinateurs personnels des internautes. Le secret du peer-to-peer, c'est sa simplicité. Des dizaines de logiciels de ce type fleurissent sur le net. L'échange gratuit de musique devient un phénomène de masse.
Celle que j'utilise le plus, c'est Emule. Il suffit d'ouvrir son logiciel, ensuite on va dans l'onglet Search, et après on cherche ce qu'on veut, par exemple les Red Hot Chili Peppers.
Donc là, ce qui s'affiche en fait sont des morceaux qui sont stockés chez des gens. Comment
voilà, qui sont stockés directement sur les disques durs de toutes les autres personnes qui ont Emule installé sur leur machine. En fait, c'est un logiciel qui fait lien direct d'ordinateur à ordinateur en fait. On passe juste par un serveur pour faire communiquer les deux ordinateurs entre eux.
Et le logiciel, tu te l'es procuré comment, en fait?
De la manière la plus légale qui soit. C'est un logiciel qui est libre de droit, en fait.
Tout d'un coup, personne n'a ouvert les yeux, personne n'a pris un peu de recul, et tout explose.
Le développement des réseaux peer-to-peer, il s'est appuyé grandement là-dessus. Sur le fait que il n'y avait rien. Et donc, comme il y avait une soif de consommation de biens culturels par les internautes, eh bien, il y a eu un accès au peer-to-peer qui était la seule offre qui existait de distribution de biens culturels en ligne.
Il y a eu un manque de clairvoyance vers le futur.
Il n'y avait rien.
Et surtout, ils étaient pris tellement dans leur combat de survie intérieure et de qui rachète qui et qui fait quoi, qu'ils n'ont pas vu venir le coup.
La problématique Internet, pour moi, elle est là. C'est-à-dire que tout à coup, bizarrement, Casa, c'est une machine à la mondialisation.
Et tout explose. C'est finalement une très bonne nouvelle, quoi.
En 2001, les maisons de disques essuient un premier revers dans la lutte contre le peer-to-peer. Aux États-Unis puis en Hollande, la justice estime que Casa, Grokster et Morpheus ne peuvent être tenus pour responsables des infractions commises par les internautes. L'offensive judiciaire contre le peer-to-peer est un échec.
Le format MP3 qui a été inventé depuis longtemps, ses créateurs avaient prévenu que ça risquait de mettre quand même un joyeux désordre dans une industrie qui marchait très bien.
Non, mais c'est vrai que si vous voulez me faire dire que l'industrie du disque n'a pas eu la réactivité
extraordinaire d'un acrobate qui arrive à retomber sur ses pieds lors d'un exercice dans un cirque, je suis d'accord avec vous que l'industrie du disque a eu du retard.
Il n'y avait rien.
Pourquoi voulez-vous que nous, qui travaillons dans la musique, dans le contenu, on crée le contenant? C'est pas notre job. Et le vinyle a été inventé par je ne sais plus qui. Le CD, on sait, c'était par Philips.
Qui est une maison, comme l'on ignore, hollandaise.
Bon, et qu'à un moment donné, les nouveaux supports seront créés par Monsieur X ou Madame Machin. Mais qui seront des boîtes dont c'est le métier.
Là, c'est un vrai, exactement, manque d'intelligence. Et je pense que les 2-3 années qui vont venir, elles vont être très très sévères pour eux, quoi.
Le téléchargement devient un tel phénomène que les fournisseurs d'accès Internet s'en servent comme argument publicitaire. En 2001, le nombre d'abonnés au haut débit doublera en l'espace d'un an. En 2002, 62 millions de foyers sont connectés dans le monde entier, 118 millions en 2004.
C'est exactement à ce moment-là que la baisse du marché s'est accentuée très vivement, très violemment. On s'aperçoit bien effectivement qu'il y a un lien entre le fait que, pas tous, mais qu'un certain nombre d'internautes qui téléchargent grâce au débit, puisque c'est plus facile, eh bien achètent moins de disques. Pas tous évidemment, mais une proportion. Alors, il suffit que 15% de consommateurs achètent moins ou peu de disques pour qu'il y ait l'effondrement qu'on constate.
Au quotidien, il y a combien de fichiers musicaux qui peuvent tourner en moyenne ?
Plusieurs millions. Vous voyez, 2 576 957 utilisateurs connectés en ce moment. Et qui partagent... Ah là, ça va, c'est plutôt correct. 449 772 793 fichiers.
En ce moment.
En ce moment. Ce qui représente 3 919 teraoctets. Quasiment 4 millions de gigaoctets.
En 2001, la baisse brutale des ventes siffle la fin de la récréation. Les 5 majors et les labels indépendants imputent au téléchargement de musique et à la gravure des compact discs la responsabilité de la dépression. La crise est bien là.
C'est énorme dans une industrie quand vous faites moins 15, moins 20.
Surtout quand ça fait plusieurs années de suite.
Quand ça fait plusieurs années de suite. En cela, le modèle américain nous a frappé de plein fouet. Et nous, en France, on a conservé un certain espoir parce que la crise n'est arrivée que l'année dernière. Jusqu'à l'année dernière, l'industrie était encore en montée.
Mais la Star Academy continue.
Oui, ça ne peut être que toi, tu es méchant.
En France, les stars préfabriquées qui passent en boucle sur les chaînes à grande audience masquent en partie la baisse des ventes de disques. L'arbre cache encore un peu la forêt, mais pour combien de temps ?
Mais depuis l'année dernière et singulièrement cette année, on est touché également de plein fouet.
Mais la Star Academy continue.
Plaint pas, mais c'est un problème qu'on ne nous plaigne pas. C'est un problème pour la musique. Et que le débat on ne plaint pas les majors, ça devrait être on ne plaint pas la musique. Parce que les majors sont les porte-parole d'un problème, mais fondamentalement, même si à chaque fois on va trouver un contre-exemple de label indépendant qui réussit bien dans ces années de crise, En termes statistiques, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de petits labels qui disparaissent.
Il y a une étude qui a été faite par Forrester qui dit clairement, à partir du moment où quelqu'un télécharge plus de 5 titres par mois sur les réseaux pirates, il n'achète plus un disque. C'est pas qu'il achète moins de disques, il n'en achète plus. C'est assez spectaculaire. Or, 5 titres téléchargés sur des réseaux pirates, on n'est pas sur la charnée, hein.
Même si l'industrie le nie, l'un des problèmes majeurs reste le prix du disque. Voulant coûte que coûte préserver leurs bénéfices, les maisons de disques se refusent à baisser le prix de leurs produits, accélérant ainsi la désaffection des consommateurs.
La crise suscitée par le téléchargement sur Internet, illégal, est arrivée à un moment où le disque arrive à une certaine... Le CD est arrivé à sa phase de maturation. Il y a des cycles et le CD avait en partie, c'était banalisé. L'offre est là, les artistes sont là, mais c'est une crise du contenant. C'est la manière dont on propose le disque au public qui est probablement en crise.
Donc depuis combien de temps tu n'as pas acheté un CD ?
Ça fait à peu près 2 ans.
Tu trouves que le CD, c'est quelque chose de trop cher ?
De nettement trop cher.
Moi, je veux bien débattre sur qu'est-ce que c'est qu'un prix, un prix cher ou un prix pas cher. C'est cher par rapport à quoi ? C'est cher par rapport à une rondelle de plastique qui vaut 1 euro. Ben oui, mais excusez-moi, le prix des 10 commandements de Cécile B2000, excusez-moi, c'est pas le prix de la pellicule.
Globalement, les pochettes de CD sont tellement laides, la recherche graphique derrière est tellement pauvre, que je vois pas ce qui me pousserait à acheter un boîtier avec un livret qui fait 3 pages, une galette de plastique qui sera rayée au bout d'un an, un CD que je ne pourrais même plus écouter alors que je l'ai acheté. Où est l'intérêt ?
Direction les locaux de Freibank, éditeur indépendant à Hambourg. Freibank a été créé il y a 15 ans par un musicien fatigué d'abandonner ses droits aux maisons de disques. Ici, on gère les contrats de plusieurs artistes et l'on cherche pour eux d'autres formes de diffusion. Les œuvres sont proposées au cinéma, à la publicité et sur Internet.
Je crois d'abord que les CD sont trop chers. Depuis quelques années, les gens en achètent de moins en moins. Si les CD étaient moins chers, ils en vendraient plus.
Si aujourd'hui, je pouvais vendre 2 fois moins cher mes disques, je vendrais 2 fois moins cher. Simplement, à un moment donné, si je vends 2 fois moins cher mes disques, ben on a fait des projections, on a fait des calculs. À un moment donné, moi, je ne produis plus de disques, je ne peux plus les produire.
Nous savons parfaitement combien coûte un CD à fabriquer. Cela revient à 2 ou 3 euros. Or, on vous le vend 20 euros. Pourquoi cela ? Comment se fait-il qu'autant d'argent disparaisse ainsi en route, en particulier dans les poches des grosses compagnies internationales ? Où passe l'argent ? Pourquoi cette différence de 2 à 20 euros ?
On peut assumer qu'un disque soit un produit, mais il y a une certaine limite. Ça, je le pense profondément. En termes de sens, il y a une limite. Et notamment vis-à-vis du public. C'est-à-dire que tu peux pas, à un moment donné, si tu instaures un rapport... Bon, la musique, c'est avant tout de la culture, et la culture, c'est autre chose que du produit, pur et simple. Si à un moment donné, ça ne devient qu'un produit, ben, le sens disparaît. Et si le sens disparaît, il n'y a plus de raison de ne pas se servir, enfin, ou de respecter.
Je suis comme tout le monde. Enfin, je veux dire, on me donne quelque chose gratuitement, ben, je le prends. Je vais pas aller faire un chèque pour avoir la chose qu'on me donne gratuitement.
Rester en phase avec son public ou préserver ses revenus, tel est le dilemme de l'artiste confronté aujourd'hui au phénomène Internet. L'artiste, lui, veut rester concentré sur la création et elle seule.
On en a vendu presque 300 000 cette année. S'il n'y avait pas eu de téléchargement sur Internet, on en aurait peut-être vendu 330 000. Mais c'est pas pour nous, ce n'est pas le but du jeu. C'est sûr que c'est un problème, plus, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, plus important pour le futur et pour ce que ça va devenir. Mais nous, ça nous en... c'est pas notre problème à nous quand même, ça reste celui des problèmes des gens qui vendent des disques.
Seigneur du rap sur la côte Est, premier producteur des mythiques de la soul, Prince Paul règle aujourd'hui ses comptes dans un album intitulé « Politics of the Business ». Car dans le milieu du hip-hop, les pirates font aussi des ravages.
Le téléchargement sur Internet ? Personnellement, ça ne me pose pas de problème jusqu'à un certain point. Je pense que c'est justifié si ça permet aux gens d'écouter un morceau avant de l'acheter. Ça m'arrive d'acheter un disque dans un magasin, et aux États-Unis, ça coûte quelque chose comme 15 ou 20 dollars. Et après, de m'apercevoir que c'est de la daube. Je me dis alors que si j'avais pu l'écouter avant, j'aurais évité de claquer mon fric.
«
C'est sympa de l'écouter un disque avant de l'acheter, à condition d'avoir l'intention de l'acheter. Par contre, si vous téléchargez un truc que vous aimez sans l'acheter, vous ne soutenez pas l'artiste qui l'a enregistré. Et ça, c'est mauvais.
Même au sein du milieu underground, le doute est là. Le rêve de tout musicien est de vivre de son travail. Que se passera-t-il si les artistes ne touchent plus aucun revenu des ventes de disques? Les alternatives sont au milieu de cette contradiction. Les Russes de SCSI, DJ régulièrement présents sur la scène techno de Berlin, s'interrogent sur leur avenir.
Tant qu'on est dans l'underground, on se dit « Super, c'est cool, c'est gratos, accès gratuit pour tout le monde. » Mais quand on commence à faire de la musique et des concerts de façon un peu plus professionnelle, on se dit « Mais je pourrais peut-être en vivre. » On rêve tous de vivre grâce à ça. Actuellement, pour nous, c'est exclu. Mais ça peut marcher, à condition d'être payé à chaque fois qu'on utilise vos œuvres. C'est pour ça que nous sommes un peu entre deux chaises. On a encore un pied dans l'underground, mais on aimerait bien aussi vivre de notre musique. En Russie, on gagne beaucoup plus d'argent en faisant de la scène. Il y a beaucoup de concerts. Ça rapporte plus que de vendre des disques. En Europe, dans les pays occidentaux, en général, c'est le contraire.
Le piratage est un assassinat. C'est très, très grave. Les enfants ne se rendent pas compte à quel point c'est grave. Ils savent grave, gravé, graveur.
Le problème, là, c'est un peu la chose suivante.
Grave, gravé, graveur.
Vous avez, tous les jours, vous invitez des gens chez vous. Tous les jours, les trois personnes que vous invitez, ils vous piquent un truc. Alors, au départ, bon, il y a un cendrier qui a disparu, c'est pas très grave. Simplement, s'ils vous piquent tous les jours trois trucs, ben, au bout d'un mois, vous allez avoir un appartement qui est vide. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre.
Je ne leur vole pas de l'argent que qui que ce soit leur aurait donné à l'origine. Et je ne le donne à personne d'autre. C'est juste, enfin, ça se passe entre Internet et moi. Les maisons de disques, elles sont hors du coup.
C'est pas, c'est pas grave, on leur pique de l'argent. Non, c'est, vous êtes en train de détruire les productions locales. Avant les productions internationales.
Quand même, ce qu'on trouve sur les réseaux de peer-to-peer, ce sont essentiellement des groupes ou des artistes qui sont très connus et très diffusés. On ne trouve pas de petits artistes locaux ou de choses comme ça.
Et donc là, t'as l'impression de moins voler quand c'est ce genre d'artiste qui est sur le réseau?
Oui, nettement.
Et ça empêche de continuer à développer de manière aussi forte que dans les années 90, par exemple, plein de genres musicaux et à l'intérieur de ces genres musicaux, plein d'artistes avec des petits volumes.
Si le marché continue à descendre, il y aura, moi je pense que dans 3 ans, il y aura 20-25% d'artistes français qui n'auront plus de contrat, qui vont disparaître dans le sens qu'ils n'auront plus de producteurs qui vont mettre de l'argent pour les aider à rentrer en studio, produire et se faire connaître. Et donc on va assister, mais d'une manière très très rapide, un appauvrissement de la création française.
Illegally downloading music.
We really take it to heart.
We really look at it as stealing.
That's a disrespect to any artist.
Respect the artists you love by not stealing their
love
music.
Love our fans. We appreciate the love, but don't
steal the music.
You got love? Act like
You're
it.
You're in control. Support music. Don't steal it.
Ils n'ont pas un gros manque à gagner de ma part. Hein. Parce que de toute façon, des CD pour 15 albums que je télécharge en MP3, j'en aurais peut-être acheté un maximum en CD.
They steal it.
Illegally downloading music is the same thing as going into a CD store.
Stealing a CD.
To us, it's black and white. Either you pay for it or you don't.
Straight up and down, it's stealing.
Je pense qu'il y a peut-être une éthique à avoir un peu quand on est consommateur de musique. Si tu fais que copier des CD, qui fait que copier de télécharger de la musique gratuitement, bon, il y a un moment où tu peux te poser quand même certaines questions en te disant mais les gens qui font la musique, comment ils vont vivre?
Ils vont faire quoi, de la prévention? Ils vont dire, oh, la pauvre Maria Carey qui ne vend plus 6 millions d'albums, mais seulement 4. Oh là là,
Malheureusement, il n'y a pas eu, de mon point de vue, suffisamment d'éducation civique pour dire aux jeunes ou aux moins jeunes qui téléchargeaient, c'est pas tout à fait bien ce que vous faites sur le plan de la morale, bien sûr, c'est tentant de le faire, mais on va vous expliquer pourquoi c'est pas bien, parce que si vous continuez à le faire, dans quelques années, où seront les nouveaux Gainsbourg, les nouveaux Benabar, les nouveaux Vincent Delerme ?
Oh là là !
Il n'y aura plus suffisamment d'argent dans le circuit pour pousser des gens à investir dans la musique et à prendre le risque d'avoir, sur 10 albums produits, un seul album qui fonctionne, parce que grosso modo, c'est à peu près ça la statistique. Hein.
Il y a aussi toute une industrie, il y a énormément de gens qui perdent leur travail à cause de ça, ça ne te gêne pas.
Donnez-moi des chiffres, je ne sais pas, moi je ne sais pas. Il y a des gens qui perdent leur travail à cause du MP3.
Universal a annoncé qu'il supprimait 1000 emplois, oui, au niveau mondial. Donc évidemment que ça a un impact. Évidemment que c'est un impact social.
En 3 ans, le chiffre d'affaires de la profession est passé de 40 à 30 milliards de dollars. Le secteur est donc en récession et il y a des suppressions d'emplois. Et ces licenciements interviennent à tous les stades de la chaîne de l'industrie de la musique.
Fini de rire. L'industrie du disque réagit et passe à l'offensive. L'une des premières mesures consiste à inclure sur les CD une protection qui rend impossible la copie. Un protectionnisme dénoncé par les associations de consommateurs. Elles accusent les majors de verrouiller l'usage du CD, mais aussi l'accès et la distribution des œuvres. En Belgique et en France, elles iront jusqu'à intenter des procès aux maisons de disques pour vice caché et entrave à la copie privée.
Je lis ici que il est copy control. Ça veut dire qu'il a un logiciel de verrouillage, dit anti-copie.
Moi, personnellement, leur protection ne me dérange pas du tout.
Et donc, si je suis attentif, il faut que je lise l'inscription qui est derrière. Sur certains lecteurs, et en particulier certains autoradios, vous pouvez rencontrer des problèmes de lecture. Alors là, c'est vrai que je reste un peu de marre, parce que c'est sur certains lecteurs, mais est-ce que ce sera le mien ? Est-ce que ce sera mon autoradio ? Je n'en sais rien, c'est la loterie.
On s'est dit, c'est quoi ce truc-là ? On était au courant de rien, et puis... Et puis donc, il y a eu quelques exemplaires de l'album où, sur lequel il y a eu le copy control. On a appris que ça posait des problèmes.
Dès le moment où tu ne peux pas le lire sur par exemple, dans ton autoradio ou sur ton ordinateur, c'est vraiment stupide.
Alors, essayez. M.
Pas encore sur le bureau. Ouais, hein.
Cherche.
Rien du tout.
Non, le lecteur l'a pas pris en compte.
Ouais, il est on peut même plus le sortir de l'ordinateur.
Non, il faudrait il y a pas un truc chez les Mac là où on appuie ça. Les éditeurs de musique disent finalement à l'ordinateur est-ce un lecteur de CD ? C'est un lecteur de CD-ROM. Il n'est pas tout à fait anormal juridiquement qu'on ne puisse pas lire un CD sur un ordinateur. Alors évidemment, ça paraît complètement à la fois hypocrite et complètement hors du temps.
Par exemple, au dernier Massive Attack, où pour le copier, enfin pour l'avoir, j'étais obligé de le télécharger sur Internet. Parce que si je l'avais acheté, il était complètement illisible sur un ordinateur. Je pense qu'ils se sabotent eux-mêmes.
Seconde contre-attaque, l'industrie s'en prend à présent aux internautes. En 2003, les Américains lancent 276 procédures contre des particuliers. Le plus jeune d'entre eux a 12 ans, condamné. Les pirates devront s'acquitter d'une amende pouvant atteindre 2000 dollars.
Il commence à y avoir quelques petites lupiottes au fond du tunnel. Et en particulier l'expérience américaine, une expérience intéressante. Le fait que tout à coup, quand on commence à bouger un peu sur quelques internautes, il commence à se passer des choses. Bon. Et passer le message que tout à coup, la musique pirate, c'est illégal.
De leur démarche, justement, d'essayer de contrer le piratage.
C'est leur business, donc en même temps, ils ne vont pas le favoriser, c'est normal. C'est normal. Ils préfèrent vendre un disque à 20 euros plutôt qu'il y ait 20 personnes qui le téléchargent gratuitement sur un réseau de peer-to-peer. C'est normal. C'est leur business. De toute façon, à leurs yeux, je serai coupable. Il n'y a pas de défense possible. Avec tout ce que j'ai téléchargé, je ne peux être que coupable.
Thank you. Attaque judiciaire contre les éditeurs de logiciels peer-to-peer, menaces à l'encontre des pirates, lobbying intense auprès des pouvoirs publics. Aux USA comme en Europe, la guerre est déclarée.
Aux États-Unis, à partir du moment où il y a eu des attaques faites contre les consommateurs, d'accord, et il y en a eu à peu près 200, le mois suivant, il y avait 40% de moins d'internautes sur les sites pirates.
Si j'ai quelque chose dont j'ai besoin pour une raison X ou Y, je vais le télécharger, mais quand j'ai fini, j'arrête. Le logiciel, il est fermé, je ne l'ouvre en fait que quand j'en ai besoin. Alors qu'avant, il tournait 24 heures sur 24. Pendant plus d'un an, l'ordinateur a tourné 24 sur 24.
Les poursuites engagées aux États-Unis ont eu des résultats. Les gens ne peuvent plus dire maintenant qu'ils ignorent que cette pratique est illégale et qu'elle peut avoir des conséquences juridiques. Elles ont également fait disparaître le sentiment d'impunité et d'anonymat qui régnait jusqu'alors. Pas vu, pas pris, pas de problème.
Les maisons de disques s'attaquent également aux fournisseurs d'accès Internet. Elles leur reprochent leur passivité face au piratage. La question de la liberté individuelle se retrouve au centre du débat. Faut-il surveiller l'internaute et comment ?
L'industrie du disque a une approche qui revient plutôt à nous accuser d'être complices des pirates au motif qu'on ne met pas en œuvre des moyens pour empêcher le peer-to-peer.
Est-ce que c'est possible déjà ?
C'est là la vraie question. C'est qu'aujourd'hui, les études qui ont pu être faites montrent que le filtrage de l'Internet, qu'il s'agisse du web ou du peer-to-peer, n'est pas efficace.
Les fournisseurs d'accès sont vraiment le centre du problème.
Je ne pense pas que les intérêts des fournisseurs d'accès Internet et des maisons de disques soient divergents. Je pense qu'ils sont différents, mais certainement pas divergents.
Tactiquement, ils ont intérêt à faire en sorte que tout le monde rentre dans l'équipement Internet. Et donc là-dessus, ils sont prêts même à filer la musique puis nous dire, bah tant pis, vous allez mourir. Bon, vous allez mourir. Une fois que tout le monde sera rentré, que tout le monde sera équipé sur Internet, ce sera, oh là, attention. Maintenant, il n'y a plus de producteurs indépendants de musique, il y a des gros d'Internet. Alors là, les gars, on va vous expliquer la règle. On va mettre des règles du jeu maintenant. Parce que bon, c'est vrai, la musique est morte à cause de ça. Donc maintenant, il faut polisser un peu l'Internet. Et comme nous, on est les patrons d'Internet et que vous êtes tous rentrés, vous l'avez dans le cul. C'est juste ça.
Il ne faut pas essayer de freiner l'évolution technologique et le développement de nouveaux modèles économiques. Ceux qui s'y essayent, ceux qui sont essayés se sont cassés les dents.
C'est une industrie, elle est terminée. L'industrie du disque, c'est-à-dire l'industrie du disque, des gens qui fabriquent des disques physiques et qui en vivent, ça n'existe plus. Elle n'existe plus. Ils sont obligés de passer à autre chose maintenant. Ça va être plus des gens qui vont administrer des contrats, que des artistes ont signés sur des histoires de gestion, de parts, de droits d'auteur et tout. Donc maintenant, c'est à eux de recalculer, de savoir ce qu'ils veulent faire et où est-ce qu'il faut qu'ils s'embarquent pour continuer à être dans cette industrie.
Il y aura toujours quelqu'un, quelque part, dans le monde libre pour faire ça. N'importe quel gamin de 10 ans, chez lui, devant son ordinateur, peut pianoter sur son clavier et tac, MP3, c'est parti. Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois qu'il va falloir trouver un moyen de contourner ça. Les labels devraient accepter le fait que le MP3 est une réalité et que les gens téléchargent, et à partir de là, proposer peut-être, eux aussi, des services sur le net.
En 2004, à Cannes, le 37e IDEM se tient dans une ambiance des plus moroses. Les ventes d'albums ont encore baissé de 18% en 2003. Le lancement des DVD musicaux n'a pas suffi à compenser les pertes. Les industriels du disque ne savent plus comment corriger leur mauvaise image d'enfant gavé. Soudain, ils redécouvrent celui qu'ils n'auraient jamais dû oublier, le consommateur.
Le peer-to-peer n'est pas une mauvaise chose, à condition d'être soumis aux lois du commerce et de permettre aux artistes de percevoir une rémunération. Or, le peer-to-peer pose actuellement problème puisqu'une grande partie de la musique en circulation aujourd'hui ne donne lieu à aucune rémunération. Nous devons absolument reconquérir la confiance des consommateurs. Depuis quelques années, l'industrie du disque, il faut bien le reconnaître, s'est taillée une mauvaise réputation. Nous devons regagner le cœur des consommateurs et leur montrer que ce que nous voulons avant tout, c'est produire de la bonne musique et faire en sorte que ceux qui l'apprécient soient satisfaits.
Ah
J'aimerais maintenant accueillir Eddie Q d'Apple.
Les vraies stars du Midem cette année sont les ténors de l'informatique. En avril 2003, Apple lance aux États-Unis le premier supermarché de musique en ligne. La firme à la pomme réussit le pari de regrouper les catalogues des cinq majors sur l'iTunes Music Store. L'industrie aurait-elle enfin trouvé un saint auquel se vouer ?
La musique n'est pas notre métier. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est de vendre de la musique morceau par morceau. Nous voulons nous battre contre le piratage et contre Kazaa. Steve a pris les choses en main. Il a rencontré les responsables des cinq grandes majors, avec qui il est parvenu à un accord historique. Nous avons joué les pionniers et nous avons complètement changé la donne dans ce domaine, en montrant qu'on pouvait acheter de la musique différemment. C'était ça notre idée de départ.
C'est alors que Napster réapparaît sous une forme légale cette fois. Roxio, éditeur de logiciels, a racheté le nom du pionnier de l'Internet. Sur Napster, le retour, la vente se fait par abonnement. L'internaute peut télécharger autant de fichiers qu'il le désire tant qu'il reste adhérent. La vente de musique en ligne se cherche un modèle et Chris Gorog, PDG de Roxio, s'improvise VRP de son nouveau concept.
Napster est synonyme de musique gratuite. Comment pouvez-vous sauter le pas et obtenir des gens qui paient pour écouter de la musique ?
Il est vrai que pour beaucoup de gens, Napster, ça veut dire musique gratuite. Mais pour beaucoup aussi, c'est une sorte d'immense jukebox céleste sur lequel on peut trouver tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est bien là l'idée d'origine de Sean Fanning. L'idée n'est pas tant de se procurer de la musique gratuitement que de pouvoir aller chercher les titres qu'on voulait et de les partager avec ses amis. Think of, share it with friends, etc.
Pourtant, tout n'est pas rose entre ces nouveaux acteurs et l'industrie de la musique. Les sociétés d'informatique peinent à négocier les catalogues des majors. La question du prix de vente des titres sur le net devient centrale et ce sont les informaticiens qui tirent les premiers et imposent le prix magique.
L'industrie du disque représente aujourd'hui un chiffre d'affaires de 36 milliards de dollars, réalisé pour l'essentiel par les cinq grandes majors. Nous sommes donc en présence de groupes particulièrement puissants qui contrôlent les droits de propriété intellectuelle d'une grande partie des catalogues existants. Je doute que ces compagnies soient appelées à disparaître dans l'immédiat, mais je pense que les innovations nécessaires au passage d'un modèle de distribution physique à un modèle de distribution électronique sont et seront le fait d'acteurs extérieurs.
Les moins de 18 ans ont beaucoup d'argent, l'argent de papa et maman. Et cet argent, ils le dépensent, ils n'hésitent pas. Mes enfants achètent des jeux vidéo, des DVD, ils achètent des tas d'autres choses, mais ils n'achètent pas de musique. Nous nous sommes donc penchés sur le problème et nous avons essayé de déterminer quel serait le juste prix pour un titre. Un tarif acceptable aux yeux des consommateurs et qui permettrait à la fois au label de s'en sortir et à nous de rentrer dans nos frais.
À l'heure actuelle, un titre nous est vendu en moyenne par les fournisseurs 65 cents. Et nous le revendons environ 99 cents.
99 cents, le titre, c'est un prix juste.
Et nous avons tous nos frais à couvrir.
C'est la première fois, depuis que je fais ce métier plus de 40 ans, que le prix de vente de la musique n'est pas fixé par la chaîne artiste, créateur, éditeur, auteur, compositeur, producteur, maison de disques, mais par un intervenant extérieur.
99 cents, le titre, c'est un prix juste.
Qui, profitant du vide sidéral dans lequel se trouve encore l'industrie, a fixé arbitrairement un prix de vente d'une chanson. Sans consulter l'artiste ni toute la chaîne. Maintenant, on se trouve devant un fait accompli.
99 cents, le titre, c'est un prix juste.
Quand un Apple, lui, dit que ce serait bien que ce soit un dollar, il se fout de perdre de l'argent en fait sur ce service-là.
En fait, quand on vend un titre 99 cents et qu'on regarde combien d'intervenants se servent au passage, il est évidemment très difficile de gagner de l'argent. Nous apportons deux choses au débat en cours. Bien sûr, nous voulons développer les ventes de iPod. Le iPod et la plateforme de téléchargement sont indissociables. Il est évident que plus nous vendrons de iPod, plus les gens iront acheter de titres, et plus nous aurons de clients, plus nous vendrons de iPod. Et heureusement, la marge est un tout petit peu meilleure dans le secteur des iPods que dans l'industrie du disque.
Cette relation, normalement de partenariat entre contenu et contenant, qui devient une relation d'asservissement du contenu par le contenant. Et si ça se passe en termes économiques, je vous dis juste une chose, c'est que je ne suis pas sûr que dans l'histoire, on puisse dire qu'à un moment donné, quand les contenants ont déterminé la nature du contenu, ça ait produit des choses culturellement très intéressantes.
Personne n'est dupe. Il s'agit pour l'industrie informatique de vendre les nouveaux lecteurs numériques qu'elle fabrique. La vente de musique en ligne n'est plus qu'un produit d'appel. Victimes de leur inertie, les industriels de la musique sont mis sur la touche.
Il est clair que les consommateurs ont fait leur choix et que c'est de cette manière qu'ils veulent avoir accès à la musique.
Comment savoir si le système marcherait commercialement? Nous ne savions pas comment faire. Nous sommes donc allés voir les maisons de disques et nous leur avons demandé ce qui, pour elles, serait un résultat satisfaisant. Et elles nous ont mis au défi de vendre 1 million de titres par mois. En disant qu'on n'y arriverait jamais.
Et vous avez fait combien?
Nous avons vendu 1 million de titres en 5 jours et demi.
En 2004, les plateformes de téléchargement légal poussent comme des champignons. Tout le monde s'engouffre dans la brèche ouverte par Apple. Après des hésitations sur le prix de vente, les maisons de disques se plient finalement aux nouvelles lois du marché. Napster, un des ogres américains, va même griller la politesse à Apple en s'installant le premier en Europe.
Nous serons, comme nous l'avons annoncé, nous avons annoncé que nous serions en Europe cette année.
Napster débarquera en Europe en 2004.
Alors, on n'en connaît pas encore tout à fait les impacts possibles. On présuppose que ça va changer, bouleverser notre façon de consommer de la musique. Donc, changement de la façon de consommer de la musique, forcément, va induire en amont changement dans la façon de produire la musique et de la distribuer.
Indifférent aux baisses de parts de marché, le milieu indépendant cherche une autre voie pour diffuser la musique. Un modèle basé sur une vision contributive où les producteurs utilisent Internet comme un espace de publication non commercial pour faire connaître les artistes. Reboot FM est une radio diffusée sur Internet où la musique est retransmise en direct depuis les clubs électro de Berlin et d'Hambourg. Une façon de réinventer la radio, média sur lequel la musique a toujours été gratuite.
En Europe, que ce soit à Paris, Berlin, Hambourg ou ailleurs, quand on écoute la radio certains après-midi pendant le travail, on entend partout la même musique, sur toutes les radios. C'est toujours la même chose. À tel point que les maisons de disques ont aujourd'hui des problèmes pour faire connaître leurs nouveautés. Nous voulons absolument éviter ça. Chez nous, il y a plusieurs DJ et la programmation est très diversifiée. D'une façon générale, la radio est gratuite pour les auditeurs. On a le droit d'enregistrer la radio gratuitement, sur cassette ou sur tout autre support. Nous sommes d'accord avec ça. Car c'est lié à l'idée du téléchargement gratuit. L'industrie du disque se définit bien sûr par rapport au disque, c'est sa raison d'être. Mais si le mode d'enregistrement évolue, et si la transmission des données s'accentue, avec de plus en plus de nouveautés, sur la base d'un abonnement ou du téléchargement de mix, les maisons de disques devront alors s'adapter à ces modèles. D'un autre côté, j'espère aussi que les auditeurs vont arrêter de tout acheter inutilement et qu'ils n'achèteront plus que ce qui leur plaît. Le profit ne peut être complètement exclu, sinon on serait dans une sorte de système communiste dans lequel chaque producteur se verrait assuré d'un revenu minimum. Évidemment, pour nous, ce serait l'idéal. Ça assurerait un revenu minimum pour tous les créateurs de produits culturels, comme l'a revendiqué le mouvement de grève des artistes en France. Mais ce sont des luttes de longue haleine.
J'ai deux enfants de 10 et 12 ans, ils n'ont jamais acheté un seul CD.
Le CD se dirige vers la porte de sortie.
Ils n'en achèteront jamais.
Je pense que le CD va connaître le même sort que le vinyle.
La musique est fondamentale et complètement au centre, parce qu'effectivement, de toute façon, ça part de là, l'intérêt de la musique, la création musicale, et que ça, c'est un signe de vie qui me fait penser que, ouais, il y aura toujours de la vie pour essayer d'empêcher que tout le monde rentre dans la matrice.
Notre histoire s'arrête ici, très provisoirement. Dans cet énorme bouleversement, la mort du compact disque est annoncée. Mais après tout, qui se souvient du disque de cire ? L'équilibre entre industrie traditionnelle du disque et nouvelle économie de l'Internet est en train de basculer. Les majors en sont les premières responsables puisqu'elles n'ont pas su voir venir une nouvelle génération d'acteurs de ce marché. On ne peut pas tout faire, compter ses bénéfices et être à l'écoute de la jeunesse. Cette crise profonde aura eu au moins un avantage. Elle annonce les changements à venir dans les industries traditionnelles de la culture. Tout le monde sera touché. Et comme d'habitude, la musique aura tout dit avant les autres.